Ce chapitre analyse comment l'entreprise finance ses projets d'investissement. Nous allons traiter trois questions. Tout d'abord, quelle est la différence entre les deux types de fonds que peut se procurer l'entreprise, comme nous l'avons vu dans l'analyse du passif de son bilan? Les fonds propres, en haut du passif, et la dette, en bas. Quelle est la différence entre ces deux types de fonds? Du point de vue, d'une part, des obligations que cela entraîne pour l'entreprise, et d'autre part, du rendement et du risque que peuvent espérer ceux qui ont apporté ces fonds. C'est le premier point que nous allons traiter. Ensuite, nous nous placerons du point de vue de l'entreprise et nous nous demanderons, puisqu'elle a accès à deux types de fonds, quel est le bon ratio entre la dette et les fonds propres? Quel est le bon ratio d'endettement? Gearing en anglais. Et que veut dire le bon? Eh bien, pour une entreprise, nous verrons que le bon ratio, c'est celui qui minimise le coût moyen pondéré de son capital, son CMPC en français, ou WACC, Weight Average Capital Cost, en anglais. Compte tenu du risque moyen que porte son portefeuille de projets. Enfin, nous nous placerons, troisième point, du côté des apporteurs de fonds et nous nous demanderons ce qu'ils attendent de l'entreprise pour lui confier ses fonds. Ce qui nous permettra de revenir sur les ratios caractérisant l'activité, la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise qu'observent les investisseurs, et de dire aussi par qui ils se font aider pour analyser ces ratios, les fameux analystes et les non moins fameuses agences de notation. Mais tout d'abord, revenons sur les différences entre les fonds apportés sous forme de dette et les fonds apportés sous forme de fonds propres. Un contrat de dette où l'emprunteur vend une créance ou une obligation au prêteur, c'est un contrat. Dans un contrat de dette, l'emprunteur reconnaît avoir emprunté 100 et s'engage à rembourser ce montant de 100 plus un intérêt à telle échéance et de telle façon en donnant telle ou telle garantie. Soit le taux d'intérêt est fixé à l'avance, soit il est indexé sur un taux de marché que tout le monde peut constater, plus une prime, un spread en anglais, qui correspond au risque propre de l'emprunteur, évalué par le prêteur. L'emprunteur, dans un contrat de dette, l'entreprise, si c'est l'entreprise qui a emprunté, est contrainte de payer les intérêts et de rembourser le principal. Si elle ne le fait pas, le créancier va devant les tribunaux et peut la forcer à payer si elle a de quoi. Sinon, l'entreprise sera déclarée en faillite, liquidée, et une fois qu'auront été payés les arriérés aux salariés, aux sous-traitants et la dette fiscale, s'il reste de l'argent en caisse, il ira à ceux qui ont prêté. Tant pis pour les actionnaires, ils n'auront rien. Bien évidemment, une entreprise n'a pas intérêt à ne pas payer sa dette. Elle a intérêt, si elle n'y parvient pas une année, à la renégocier avec ses créanciers. Je répète encore une fois, et nous y reviendrons à nouveau en parlant de la finance, les prêteurs sont de deux types, soit les banques qui font des crédits aux entreprises, soit des investisseurs institutionnels qui regroupent l'épargne d'un grand nombre d'investisseurs individuels et qui achètent des obligations émises par les entreprises. Les investisseurs qui ont apporté de la dette sont assurés d'un rendement nominal prévu à l'avance ou indexé, sauf si l'entreprise fait faillite et c'est cela leur risque. Les fonds propres, eux, sont apportés par des actionnaires. Un actionnaire, en achetant une action, acquiert quoi? Il apporte de l'argent à l'entreprise contre quoi? D'abord et avant tout, contre un droit de vote. Normalement, une action donne droit à un droit de vote. Un vote où? Au Parlement de l'entreprise réuni en Assemblée générale. Cette Assemblée générale se réunit une fois par an au moins, plus si nécessaire. Elle juge les dirigeants sur les comptes qu'ils présentent, d'où l'importance de la comptabilité, et sur les projets qu'ils affichent. Puis l'Assemblée générale élit le gouvernement de l'entreprise, son conseil d'administration, lequel élit le président de l'entreprise qui nomme ses dirigeants. Si ces dirigeants ne délivrent pas la rentabilité qu'il attend, tout actionnaire peut voter pour en changer ou alors décider de vendre ses actions et voter ainsi avec ses pieds. Quelle est l'obligation de l'entreprise à l'égard de ses actionnaires? Aucunement l'obligation de racheter les actions ou de leur assurer un rendement garanti. D'aucune façon. L'actionnaire prend les risques résiduels de l'entreprise car il est rémunéré en dernier et reçoit ce qui reste une fois qu'elle a payé ses achats, ses employés, l'État et le service de sa dette. L'entreprise n'a aucune autre obligation que de se soumettre au désir des actionnaires exprimés dans l'Assemblée générale et par le choix du conseil d'administration et du président. Par conséquent, les actionnaires prennent plus de risques que ceux qui ont apporté de la dette. C'est pourquoi ils demandent une rémunération supérieure, parce qu'ils sont adverses au risque. Il est plus risqué d'être actionnaire que d'être apporteur de dette, donc l'actionnaire demande un rendement supérieur à celui de l'apporteur de dette. Par exemple, si la dette de l'entreprise lui est consentie à 5%, moi, en tant qu'actionnaire, je demanderai 15% de rendement sur les fonds propres. Abordons notre deuxième point, l'effet de levier et la politique optimale de financement d'une entreprise. Si une entreprise dégage un excédent brut d'exploitation après impôt, c'est-à-dire ce qui lui reste pour rémunérer tout son capital de par exemple 200, avec un capital total dette plus fonds propres de 2000, elle a une rentabilité économique de 200 sur 2000, c'est-à-dire de 10%. Si ce capital de 2000 est composé de 1000 de dette et de 1000 de fonds propres, et si la dette est consentie à 5%, l'entreprise rémunère la dette de 50, 5% de 1000. Et par conséquent, il lui reste 150 pour rémunérer les fonds propres de 1000, dont la rentabilité est donc de 15%. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier de l'endettement. Si l'entreprise s'endette pour la moitié de son capital, cela augmente le rendement des fonds propres. S'il n'y avait que des fonds propres, le rendement des fonds propres serait de 10%, le ROCE. S'il y a moitié de dette à 5%, le rendement des fonds propres passe à 15%, à condition, notons-le bien, que le rendement économique de l'entreprise, le ROCE, ici 10%, soit supérieur au coût de la dette, ici 5%. Vous voyez bien que l'intérêt des actionnaires serait d'augmenter l'endettement. À ROCE donné, cela booste, si je puis dire, la rentabilité des fonds propres, c'est-à-dire le ROE. Mais en même temps, cela les rend plus risqués, parce qu'évidemment, le service de la dette est de plus en plus important à assurer. Si les cash flows de l'entreprise fluctuent beaucoup, il y aura des années où vous ne pourrez pas assurer le service de la dette. À ce moment-là, vous serez obligé de la renégocier et le rendement des fonds propres va passer en dessous de zéro. Le rendement des fonds propres est donc plus volatile et plus risqué. Augmenter le taux d'endettement, le gearing en anglais, mesuré par la part de la dette dans le capital total employé, c'est augmenter le rendement des fonds propres, mais c'est aussi augmenter le risque des fonds propres. C'est cela l'effet de levier. Et vous verrez, c'est un peu trop technique pour cette synthèse, comment le directeur financier d'une entreprise, dont c'est le rôle, doit choisir le taux d'endettement qui minimise son coût moyen pondéré du capital, compte tenu du rendement attendu et du risque qui caractérise son entreprise. Ce qu'il faut retenir de ce choix du taux d'endettement optimal, c'est que plus une entreprise est risquée, c'est-à-dire plus ses cash flows anticipés sont volatiles, et plus son taux d'endettement optimal est bas. Pour une start-up, ce taux est nul. Aucune banque ne prête à une start-up parce que ses cash flows, même très prometteurs, sont trop imprévisibles et qu'on ne peut pas évaluer sa solvabilité. D'ailleurs, beaucoup de start-up font faillite. En revanche, la filiale Commercial Investment Bank de la banque pourra investir, mais en fonds propres, dans la start-up. Les apporteurs de fonds propres surveillent, avec l'aide des analystes financiers, des experts travaillant dans les banques d'affaires, les ratios de rentabilité de l'entreprise et son ratio d'endettement. Les apporteurs de dette, quant à eux, surveillent les ratios de solvabilité de l'entreprise, avec les agences de notation, qui note la dette des entreprises et des États à leur demande. Voilà le rapport de l'entreprise au marché financier, représenté par les deux grandes figures d'investisseurs, les actionnaires apporteurs de fonds propres et les apporteurs de dettes.